8h27 en ce mardi matin 7 janvier. De la belle visite en studio. Vous l'aimez autant que nous, vulgarisateurs d'actualité. Si vous ne le suivez pas sur les réseaux sociaux encore, il faut absolument le faire. Je ne vais jamais arrêter de le dire. Farnel Morissette est avec nous. Farnel, bonne année, cher ami. Santé et bonheur à toi et ta famille pour 2025.
Et de même à tout le monde qui écoute et à tout le monde en studio.
Hey, Farnel, peut-être commencer, peut-être ta réaction par rapport à la démission du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, hier. Ensuite, on embarquera sur la job qu'il a fait, son leg et tout ça, mais 24 heures ou presque plus tard, c'est quoi ta réaction par rapport à la démission du premier ministre?
Je peux pas dire que je suis surpris. Sincèrement, moi, je voyais plus ça comme une question de quand, pas de si. Puis je pense que la plupart des gens qui suivent de près l'actualité politique avaient à peu près la même idée. Quand c'est rendu que les caucus des Maritimes du Québec et de l'Ontario du Parti libéral du Canada n'appuient plus le chef, le chef est plus chef. Ouais. C'est vraiment juste une question de temps. Je pense que malheureusement, le timing est vraiment affreux avec Donald Trump qui rentre et qui fait les menaces de tarifs. Mais parmi toutes les mauvaises options qui étaient ouvertes au premier ministre, je pense qu'il a pris la moins mauvaise.
Techniquement, c'est un peu bizarre de jaser de sa carrière quand il est encore en place.
Ouais.
Officiellement, on s'entend. Puis c'est une technicalité qui est important quand même de le mentionner, là, que pour le moment, mais je veux dire, Justin Trudeau, même s'il a parlé de démission, c'est pas tout de suite, il est encore le premier ministre.
Ouais, je pense que c'est un peu tôt pour parler de logis de sa carrière, parce que, je veux dire, c'est le jour où on va faire une biographie complète de la carrière de premier ministre de Justin Trudeau, ben, le dernier chapitre, il n'est pas encore écrit. Le dernier chapitre, ça va être l'entrée de la deuxième administration Trump et comment Justin Trudeau, en tant que premier ministre, avec la pleine autorité de premier ministre, va négocier l'entente avec la frontière, les débuts du libre-échange, qu'est-ce qu'il va faire pour faire tomber ces tarifs-là, donner vraiment le ton pour la coopération entre le Canada et les États-Unis. C'est Justin Trudeau qui va faire ça, et puis il va faire ça dans les prochains mois. Alors, et ça, c'est un énorme moment aussi pour lui. Alors, je pense que le dernier chapitre de sa vie politique, en tant que premier ministre au moins, qui sait ce qu'il va faire après, elle n'est pas encore écrite. Puis ça, il faut vraiment, je pense, rester un peu à l'affût puis pas trop vite commencer à faire les bilans finaux de sa carrière.
Tout à l'heure, on demandait à nos auditeurs, justement, le leg de Justin Trudeau et les déficits records sont sortis en très, très, très grand nombre. Est-ce que ces négociations-là avec l'administration Trump pourraient venir lui sauver en quelque sorte son image? Ou il est trop associé à des déficits, je vais le dire comme ça, historiques pour le Canada?
Ben, tu sais, mettons que je vous demande, genre, les autres premiers ministres qu'on se souvient très bien du Canada, Jean Chrétien, est-ce qu'il a fini avec des déficits ou des surplus?
Jean Chrétien avait terminé avec des surplus, si je ne me trompe pas. Brian Mulroney avec des déficits records.
Ouais, mais c'est
ça, c'est parce
chose.
Que Jeff s'y connaît.
J'allais dire, je suis surpris, que vite demain, parce que je ne vous ai pas primé pour ça. Là. mais la plupart des gens ne se souviennent pas de ce genre de choses-là. Ce qu'on se souvient généralement, c'est est-ce que le Canada allait bien ou mal? Puis ça, c'est sûr que les déficits sont un facteur là-dedans, mais des fois, l'économie va bien quand on a des déficits, des fois, l'économie va très mal quand on a des surplus. Je pense qu'on va se souvenir de la fin du mandat de Justin Trudeau comme étant une période qui a été très économiquement difficile pour beaucoup de gens. Je veux dire, les banques alimentaires sont pleines de gens, elles ne sont pas pleines de nourriture. Et l'inflation fait mal à bien des gens. Je pense que ça va être surtout ça. On ne va pas se rappeler nécessairement du montant des déficits. On va se rappeler de comment on se sentait dans l'économie que Justin Trudeau a laissée. Et ce n'est pas une économie qui est facile.
Fait qu'on va se souvenir de quoi si on met l'économie de côté?
Ben, je pense qu'ultimement, un jour, quand on va faire le recul, on va réaliser qu'il y a eu deux périodes de Justin Trudeau. Il y a eu la première période, son premier mandat de 2015 à 2019, où il était majoritaire, et il y a eu 2019 à 2025, la deuxième période où il n'était jamais majoritaire. Il y a eu la pandémie et il y a eu l'après-pandémie. Alors, si on regarde vraiment ça, la première phase, qu'on peut quasiment dire la première moitié de son rôle de premier ministre, et la deuxième moitié, ça va être deux choses très, très différentes. Mais tu sais, retournons en 2015, là. En 2015, Justin Trudeau arrive en rockstar. Il faut quand même se le rappeler, là. C'était la Trudeau-manie 2 qui rentrait.
Tous les autres pays étaient jaloux de notre premier ministre.
Exactement. T'sais, je me souviens, mes collègues aux États-Unis, parce que j'étais aux États-Unis à l'époque, me disaient « finalement, vous avez un tellement bon premier ministre, il est tellement hot ». Il y avait des découpures en carton de Justin Trudeau à des parties qui sortaient juste pour le gag. Là,
jeune beau fringant.
Exactement. T'sais, on riait bien de ses cheveux, mais quand même, ça avait un impact. C'est quand même un gouvernement qui est rentré avec
pardon, avec une vision vraiment, vraiment intéressante, vraiment unifiée. T'sais, si on regarde la campagne, il a commencé en troisième place en 2015 et en une période de juste 3 mois, a été capable de rallier une majorité démocratique électorale au pays très rapidement avec une vision très forte, avec une équipe. Et je pense que c'est surtout ça. Il y avait une équipe qui avait une vision très, très unifiée et il est rentré et très rapidement a commencé à faire des gros changements. Si on regarde, par exemple, c'est le gouvernement qui a beaucoup diversifié l'économie canadienne. Avant, on avait un gouvernement Harper qui était très axé sur le pétrole, très axé sur l'exportation. Je veux dire, à un moment donné, on a eu une période où le dollar canadien était plus élevé que le dollar US tellement on misait sur l'exportation du pétrole. Alors, le premier gouvernement Trudeau, c'est le gouvernement qui a signé l'accord de libre-échange avec l'Europe. C'est le gouvernement qui a négocié, finalisé, signé l'accord économique du Transpacifique. Ouais. Alors, l'intention était vraiment largement de diversifier. Il y a eu beaucoup d'investissements aussi dans le développement de la technologie canadienne pour essayer de se rendre un peu plus résilient, justement, à être un peu moins, on l'espérait, on ne l'a peut-être pas fait assez, dépendant sur les États-Unis. C'est aussi le gouvernement qui a légalisé la marijuana. On ne peut pas passer à côté de ça. Je veux dire, c'est quand même des centaines de millions, probablement des milliards de dollars qui sont sortis des mains du crime organisé pour rentrer dans l'économie légitime, réglementée et taxée. Et puis aussi, il ne faut pas passer à côté, ça, on est encore dans la première moitié, ouais, là, le mandat 2015-2019, c'est le gouvernement qui a instauré l'allocation familiale canadienne, qui a sorti pas loin, selon les meilleurs estimés économiques, puis ça, je veux dire, on peut en parler en long et en large, mais à peu près un demi-million d'enfants canadiens de la pauvreté. Ça a coupé la pauvreté des enfants de moitié en dedans de 4 ans. Ça, c'est un leg, je pense, quand même énorme. Bon, là, malheureusement, aujourd'hui, on a un enfant sur 5 qui rentre, ouais, à l'école qui a faim, là, alors ça s'est un peu effrité, mais cette période-là, et ça, je pense que ce qu'on voit là-dedans, c'est quand on parle d'un politicien, on parle jamais juste de l'individu, on parle de l'équipe qui l'entoure, puis ça, c'était un Justin Trudeau qui avait une équipe forte, qui avait une vision claire, jusqu'en 2019, quand les choses commencent à s'effriter un peu, puis il y a eu la deuxième moitié, puis on va pouvoir rentrer là-dedans si on veut. Hein.
Mais justement, est-ce qu'il y a eu la deuxième moitié a commencé où? Puis là, je parle pas dans le temps, là, évidemment. Là, je parle à peu près avec... Y a-t-il un événement qui fait que ça a comme commencé à dérailler puis que plus rien allait bien?
Je pense que ce serait facile de dire que c'est la pandémie. Parce que c'est sûr que la pandémie, je veux dire, tous les gouvernements au monde ont mis leurs plans aux poubelles, mais j'ai l'impression, moi, que les premières fissures ont commencé un peu plus tôt que ça avec l'affaire SNC-Lavalin. Ça a été le départ de Jody Wilson-Raybould, qui était un poids très, très fort de son gouvernement. Mm-hmm. Mais ça a aussi été le départ de Gerald Butts. Gerald Butts, qui est un ami de très longue date de Justin Trudeau, qui était largement crédité comme un des grands visionnaires du gouvernement Trudeau. T'sais, quand on parle là, d'un gouvernement qui a une vision, qui a un plan, qui s'en va dans une direction claire puis que tout le monde marche dans la même direction, Gerald Butts était largement crédité comme étant pas le seul, mais une des voix qui était capable de former cette direction-là. Et dans l'affaire SNC-Lavalin, ben, Gerald Butts a été obligé de quitter lui aussi.
Ouais.
Alors après ça, on a comme l'impression que mois par mois, puis là on rentre dans justement la deuxième moitié, mois par mois, année après année, les gens qui formaient l'équipe, qui avaient la grande vision autour du gouvernement Trudeau, semblaient aller à d'autres postes, quittaient le public pour aller au privé, s'en allaient faire autre chose. C'est quand même exigeant la politique, je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent s'en aller, mais il semble que l'équipe n'a pas été capable de se renouveler autour d'une vision. Puis là, on rentre dans un gouvernement, oui, OK, il y a la pandémie, gérer la pandémie, c'était très, très difficile, mais qui semble aller de mesure en mesure sans une vision cohérente, ce qui donne une espèce de gouvernement qui donne à tout le monde l'impression qu'il en fait trop et pas assez en même temps. On pense, par exemple, à la gestion de la pandémie qui est allée de mesure en mesure au niveau fédéral. On n'avait pas vraiment l'impression qu'il y avait comme un plan concret, au moins pas au début. Puis après ça, les mesures économiques, encore une fois, on peut aller jusqu'à l'annonce un peu bâclée du chèque de 250 $ qui allait aller à tous les travailleurs, qui a finalement mis fin à la collaboration avec Chrystia Freeland, qui, ouais, était une des dernières voix fortes qui avait été avec Justin Trudeau depuis le début. Le renouvellement de l'équipe, c'est pas mal fini, là, je pense.
Ouais, puis tu sais, quand tu dis dérailler, pas de vision claire, PCU a été un déraillement en bout de ligne parce qu'il y a plein de gens qui ont pu en bénéficier, qui n'avaient pas à en bénéficier, etc. Moi, je reviens sur les scandales parce que j'aime ça où tu nous amènes avec SNC-Lavalin. Il y a eu aussi We Charity, il y a eu l'ingérence chinoise. Ça, est-ce que je me trompe ou ça éloigne les bonnes personnes, ton équipe s'affaiblit, Justin Trudeau n'était peut-être pas une personne qui avait autant de, je vais le dire comme ça, de doigté, voire même d'intelligence stratégique. Alors, une fois qu'il perd ses gros morceaux, ben ça donne des prises de décision comme ça, prises à droite, à gauche?
Je suis pas à l'intérieur de l'équipe de Justin Trudeau, évidemment, mais vu de l'extérieur, oui. Chaque scandale du genre, on peut dire, a coûté quelqu'un de son équipe. Mm-hmm. Et puis, il y en a eu beaucoup. Il n'y en a pas nécessairement eu beaucoup plus que beaucoup d'autres gouvernements qui ont une longue durée, mais il y en a eu beaucoup. Et chaque fois, c'est ça, chaque fois que tu perds une voix forte parce que bon ben elle a été impliquée dans un scandale, elle a mal géré une situation, quelque chose, il faut que tu remplaces cette personne-là, puis tu es obligé de la remplacer par quelqu'un qui était pas nécessairement ton premier choix et qui rentre dans une situation un peu plus difficile, un peu moins alléchante. Alors ça attire pas nécessairement des gens qui sont aussi motivés, disons. T'sais, en politique, il y a quand même une phrase intéressante que je vais traduire. C'est après que tu sois élu, tu n'as pas de nouveaux amis.
Ouais.
Et puis, Justin Trudeau est rentré premier ministre avec une grande, grande gang d'amis, mais renouveler ces amis-là une fois élu, ça devient très, très difficile parce que tu ne peux jamais savoir si les gens qui joignent à ton équipe se joignent parce qu'ils partagent ta vision ou parce qu'ils veulent une partie de ton pouvoir.
Bien, Fernel, tu m'ouvres la porte. Le premier ministre, en ce moment encore du Canada, Justin Trudeau, dans 25 ans, 30 ans, 50 ans, est-ce qu'on va se souvenir de lui comme quelqu'un qui était prêt à prendre le blâme pour certaines choses ou plutôt quelqu'un qui pointe le doigt? Tu parles d'amis et d'entourage. Il en a perdu en cours de route. On voit souvent, peut-être, certains vont dire des critiques que Justin Trudeau n'était pas prêt à prendre le blâme lui-même. C'est d'autres gens qui ont écopé. Et peut-être la goutte qui a fait déborder le vase, justement, c'est Chrystia Freeland.
Ben, c'est intéressant parce que, d'un côté, publiquement, le gouvernement Trudeau a certainement été très, très ouvert à s'excuser, à présenter des excuses à peu près tous les groupes imaginables, sauf peut-être les Québécois dans certaines situations. Mais bon, je veux pas trop rentrer là-dedans.
Tel père, tel fils.
Encore une fois, c'est ça. Les historiens vont être mieux placés que moi pour ça. Mais ça, c'est une acceptation de responsabilité collective que Justin Trudeau était prêt à faire au nom des Canadiens. Au titre individuel, je veux dire, même encore juste hier, pendant sa conférence de presse, il refusait de reconnaître que c'était sa faute, la situation avec Chrystia Freeland.
Juste dire, moi, je suis un battant. Puis, c'est ça. Il répétait les mêmes phrases.
Toujours prêt à aller me battre. J'aurais voulu continuer avec Chrystia Freeland, mais bon, c'est elle qui a décidé, c'est sa faute. Quand, je veux dire, si on regarde un peu ce qui s'est passé, ce qui commence à sortir, puis encore une fois, on n'a pas toute l'information, là, mais ce qui commence à sortir, c'était que Justin Trudeau voulait essentiellement la blâmer, elle, pour un mauvais budget qu'elle ne voulait pas. Alors, c'est peut-être indicatif de justement comment ça se passait dans l'arrière-scène qui mène à justement cette espèce d'effritement graduel de l'équipe-là. C'est la spéculation externe, oui, oui. Là. Je veux pas...
Hey,
on jase. Mais vu de l'extérieur et les gens qui vont faire l'analyse de l'extérieur vont probablement, je pense, arriver à une conclusion du genre que justement, c'était quelqu'un qui était combatif. Puis c'est bien, c'est normal quand on est un politicien de vouloir être combatif. Mais, tu sais, vouloir être combatif, des fois, ça veut dire reconnaître qu'on a mangé un coup et que c'est parce qu'on n'a pas bien planifié pour.
Tantôt, tu parlais de la pandémie puis tu disais à quel point tous les gouvernements ont pris les plans, les ont mis aux poubelles. Ils m'ont dit, bon, on n'a pas le choix, il faut gérer cette pandémie-là. Généralement, là, puis j'ai inclus le Québec là-dedans parce qu'on est en déficit record aussi de 11 milliards au Québec. Est-ce que cette pandémie-là a trop donné de légitimité de dépenser au gouvernement? T'as, on dirait qu'à partir de là, on a voulu sauver tout le monde. Puis t'sais, Justin Trudeau est un bon exemple. Congé de TPS, soins dentaires. T'sais. On dirait que là, on s'est mis à vouloir sauver tout le monde parce qu'en pandémie, ça avait marché. On était redevenus, entre guillemets, des rockstars qui sauvaient le monde.
Peut-être, ouais, je pense que c'est un point de vue intéressant. C'est que quand tu commences à dire oui à du monde, puis dire oui souvent, puis rarement dire non, ça devient difficile de fermer les valves parce que les gens sont habitués. T'sais, quand ça fait beaucoup plus mal politiquement enlever quelque chose que tu as donné que ça fait du bien le donner à la base. Alors, tu es comme obligé de continuer à le faire. J'ai quand même feuilleté à travers le budget puis la mise à jour budgétaire, puis j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est qu'on veut pas trop dire non à trop de monde, alors on se ramasse à mettre plein de mesures qui n'ont pas vraiment une vision. T'sais, moi, je le suis plus, le fil de la vision du gouvernement canadien.
Pas de vision commune.
Je vois, c'est ça, un paquet de mesures qui, individuellement, sont probablement bien avisées, mais quand on est rendu à dire oui à presque tout le monde ou à trop de monde, je veux pas aller dans l'hyperbole, ça devient difficile après ça gérer l'ensemble du navire parce que on va un peu dans toutes les mêmes directions.
Fernel, en terminant, je vais te mettre de la pression sur les épaules. Parce que, c'est nouveau. Là. Il l'a annoncé hier, sa démission. Il est encore en poste. Bon, c'est pas pour tout de suite. On va faire la course à la chefferie du Parti libéral. Mais quand même, si c'est un devoir, là, qu'est-ce qui s'est passé dans les 9-10 dernières années pour Justin Trudeau et les libéraux. Si tu avais une note à donner pour ce devoir-là, cette présentation-là en tant que parti politique au pouvoir, ce serait quelle note que tu donnerais?
Moi, je le diviserais en deux sessions.
OK.
Si on continue l'analogie scolaire, la première session, qui est, disons, la session de 2015 à 2019, j'ai participé à cette campagne-là avec un candidat local. Et moi, je donnerais une assez bonne note. Pas un A+, nécessairement, mais un A- un A pour la première période, okay. Le 2015-2019, quand il y avait une vision cohérente, quand on avait encore une équipe qui tout le monde marchait ensemble. Gestion de la pandémie et, disons, la deuxième session, là, ça devient un peu plus difficile. Je ne donnerais pas un note d'échec nécessairement parce que, je veux dire, le Canada tient encore. Ouais. On est encore là. Il y a quand même eu des bons coups. On se tient le plus qu'on peut debout avec les États-Unis.
On est sur le bord de devenir un 51e État américain, à part ça.
Alors, moi, je dirais que c'est pas un échec, mais c'est pas une note forte. Peut-être un C+.
OK.
Je mettrais ça. Puis j'ai l'impression que quand on va être 50, 60 ans dans le futur, puis on va faire une liste de tous les meilleurs premiers ministres, il va quasiment avoir cette espèce de vision binaire-là de Justin Trudeau. Première moitié va être vue comme probablement un des meilleurs, pas le meilleur, mais peut-être un des 10 meilleurs gouvernements de l'histoire du Canada. Et 2019 à maintenant, ça va pas faire la cote.
Non. Tellement intéressant. Suivez-le sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Il est partout. Il vulgarise tellement bien l'actualité. Ami de Rage Against le matin, Farnell Morissette, merci pour ça.
Ben, merci
très
à vous.
Apprécié comme toujours.
Merci à vous, ça me fait plaisir. Puis bon 2025, on continue même.
À toi aussi, cher ami. Puis on se parle bientôt.
Oui. Allez.
On s'arrête 2-3 minutes.